Nous sommes toujours en direct de la fête de la montagne Limousine à La Nouaille. Et sur notre studio éphémère, nous accueillons Pierre Demougeot.
Bonjour.
Salut Pierre.
Salut.
Toi, tu vas nous parler donc d'un groupement forestier qui s'appelle Avenir Forêt, qui est assez récent, je crois. Et alors, en deux mots, qu'est-ce que c'est qu'un groupement forestier et quelle est la particularité donc de ce groupement Avenir Forêt?
Oui, alors un groupement forestier, au niveau juridique, c'est une société civile immobilière. Donc on a des parts sociales, en fait c'est des gens qui se groupent ensemble. Et puis nous, la particularité, c'est qu'on le fait pour acheter des forêts. Donc des forêts, c'est la terre et les arbres, on achète le tout. Et puis on va essayer finalement de faire une grosse cagnotte à plein de particuliers. Avec ces cagnottes, on achète les forêts pour l'exploiter, le bois. Donc vendre le bois donc, voilà, aux scieurs ou à différents acheteurs de bois pour différentes utilisations. Et le petit plus entre guillemets qui faisait toute notre motivation au départ avec ma femme quand on a créé ça il y a 3 ans, c'était d'essayer de traiter la forêt de manière respectueuse. C'est-à-dire que contrairement à ce qu'on a pu voir sur la route en arrivant, d'éviter notamment les coupes rases. Donc pas de coupes rases, on va éviter au maximum les impacts sur le sol, c'est-à-dire que quand on a des machines qui pèsent un certain poids, notamment les porteurs avec les troncs d'arbres, ça tasse le sol, ça le tasse même sur des profondeurs assez importantes. Et on va essayer d'avoir toujours un couvert forestier, c'est-à-dire qu'on va venir couper un certain nombre d'arbres bien choisis. Et on va, mais pas tous quoi, on va seulement en prélever un petit peu et de manière régulière. Et même l'idée c'est d'avoir sur une même parcelle des arbres qui sont petits, des arbres qui sont moyens, des arbres qui sont gros. Et d'essayer de faire en sorte que ça tourne de manière continue. Voilà, donc du coup l'avantage pour le propriétaire ou pour nous c'est que on a des revenus aussi qui sont un peu étagés. Et puis l'avantage pour la forêt, eh bien, c'est qu'on a toujours des racines des arbres qui tiennent le sol. Vous avez remarqué que quand on fait une coupe rase, après du coup c'est un petit peu verdun et quand il y a des pluies, notamment s'il y a un peu de pente, on voit
bien
que...
ce
qui arrive quand même un petit peu. On voit bien qu'effectivement, on va dire que quand on compare l'avant et l'après, avant il y avait un écosystème forestier plutôt en forme avec une certaine diversité relative suivant ce qui était présent, mais après il n'y a plus d'écosystème forestier en fait, on est dans l'état d'un champ pas labouré, mais bon on est quand même pas très loin. Donc du coup l'idée c'est d'avoir en permanence une forêt finalement, en permanence des arbres, les racines qui tiennent le sol et un renouvellement. Et puis du coup je pense que les gens le savent ici dans le coin mais parfois c'est pas toujours le cas, les forêts ne sont pas plantées avec des arbres qu'on achète en pépinière, la forêt n'a pas attendu les êtres humains pour se régénérer. Donc en fait un arbre ça fait des fleurs, ça fait des graines, et ces graines peuvent tomber au sol et ces graines peuvent germer et refaire des petits arbres qui vont repousser. Donc en fait ça s'appelle la régénération naturelle et on peut tout à fait se servir de ça, réutiliser ce que la forêt donne naturellement pour arriver à renouveler ce qu'on appelle le peuplement, c'est-à-dire l'ensemble des arbres.
Alors on reviendra sur vos méthodes et donc comment vous envisagez la gestion forestière. Peut-être revenir sur la notion de groupement forestier.
Oui.
Ce qui est proposé justement de participer à un groupement forestier, d'habitude c'est plutôt vu comme un placement financier, voire un outil de défiscalisation, mais sans une vision écologique à côté.
Oui, c'est vrai que, enfin, il y a des groupements forestiers comme ça qui existent à l'heure actuelle, mais c'est vrai que ça peut être des produits proposés par des banques, ça peut être des choses qui sont un petit peu déjà des grosses machines avec beaucoup de salariés où il y a une certaine pression, c'est-à-dire qu'ils vont avoir, ils vont lever par exemple 1,5 million cette année, donc il faut absolument qu'ils trouvent des forêts à acheter pour 1,5 million et du coup, voilà, peut-être que les choix qu'ils font sous la contrainte ne sont pas forcément toujours... Enfin, ils font ce qu'ils peuvent, quoi, mais du coup, il y a un peu de pression. Nous, c'est vrai qu'on est un petit peu plus dans le côté artisanal dans le bon sens du terme, convivial, c'est-à-dire qu'on va, si on ne trouve pas une forêt qui nous convient, c'est pas grave, on attend. On va attendre la bonne occasion, on n'est pas pressé. De la même manière, une assemblée générale chez nous, On va aller venir dans un coin où il y a une de nos forêts, on va visiter la forêt, on va en discuter, on va manger ensemble, on va prendre des décisions ensemble collectivement. Chaque personne, suivant le nombre de parts qu'il a dans la société forestière, dans la société civile, a des droits de vote. Et puis ça marche comme ça, quoi. On les tient au courant, on a un site internet. Alors que c'est vrai que dans des trucs classiques, bon bah. Vous recevez votre chèque une fois par an, un peu comme dans les multinationales, quoi. Vous avez une lettre avec de la langue de bois et puis il n'y a pas trop de transparence. Si vous voulez voir les arbres, c'est pas forcément très simple ou très organisé. Voilà, donc c'est l'avantage d'être petit aussi, quoi.
Est-ce que c'est des gens qui viennent du milieu forestier déjà, qui ont déjà une réflexion? Est-ce que c'est des propriétaires qui avaient en leur nom propre, qui étaient propriétaires de forêts déjà, enfin,
Alors, à l'heure actuelle, on est 40 associés. Donc, en fait, c'est des gens qui ne se connaissaient pas du tout à la base. Pour la plupart, l'immense majorité n'y connaissait pas grand-chose à la forêt non plus. Et n'avaient pas de forêt à eux. C'est-à-dire qu'on a vraiment amené d'abord que de l'épargne, que de l'argent pour acheter des forêts. Si quelqu'un un jour vient vers nous en disant ah, j'aimerais intégrer ma forêt à la vôtre, on y réfléchira, mais du coup c'est pas évident parce qu'il faut savoir combien elle vaut et se mettre d'accord sur un prix, etc. Alors quand on apporte de l'argent, les choses sont plus faciles. Et du coup, c'est des gens en fait qui sont de tous horizons. On va peut-être avoir deux profils qui se dégagent. Des gens un petit peu âgés entre guillemets, on va dire entre 50 et 70 ans, qui sont déjà propriétaires ou qui ont un petit peu de patrimoine, qui ont des enfants qui sont déjà grands. Et du coup, ils vont être plus dans un esprit un peu de transmission, de pas mettre toute leur bille, de pas garder leur argent à la banque, d'essayer d'avoir de la richesse réelle, quelque chose qui est solide, et puis qui est utilisé à bon escient, parce que l'argent sur un compte en banque, on ne sait pas trop ce qu'ils font avec, en définitive. Donc on a ce profil-là, on a aussi des gens plus jeunes qui gagnent qui gagnent correctement leur vie et qui du coup sont vraiment là dans une idée de placement éthique et qui viennent pour vraiment mettre leur argent dans quelque chose d'utile. Et puis ces gens-là, ben non, en fait, ils viennent de partout en France, ils viennent même d'Allemagne. Moi, ma femme est allemande à la base. Et donc, ce qui est étonnant, enfin, ou peut-être logique, c'est que finalement, on avait écrit un projet à la base et ça a sélectionné les gens. Et en fait, malgré leurs différences d'âge, de milieu social, etc., ou même d'opinion, d'idéologie, quoi que ce soit, sur ça, on se retrouve. Et finalement, quand on fait une assemblée générale, bah, c'est étonnant à quel point les gens pensent un peu pareil et que ça, du coup, ça se passe bien. Voilà. Donc ça, c'était vraiment sympa. Et après, j'aurais dire aussi que c'était pas forcément quelque chose qu'on avait vu au départ, mais le fait d'être 40 des personnes entre 35 et 70 ans, ça donne une expérience incroyable. Donc on s'appuie vraiment sur eux aujourd'hui, sur leurs expériences professionnelles, sur les expériences de vie. Et quand on a des décisions à prendre importantes, voilà, on les consulte et on sait que ce qui va en sortir, c'est solide, quoi. Et ça fait plaisir. On l'avait pas vu au départ, quoi.
Alors Avenir Forêt, donc ce groupement forestier, ça c'est combien de forêts à peu près? Combien d'hectares vous gérez, localisés où?
Alors du coup, on a différents massifs forestiers. À l'heure actuelle, on a 110 hectares de forêt. On en a qui sont sur Fay et Monestier-Merline, donc dans l'est du plateau. On va en avoir qui sont vers Aurillac, donc plus un peu autour d'Aurillac, Ytrac, Polminhac. Et puis on va en avoir un petit peu vers Limoges aussi, donc là sur le côté ouest de la montagne Limousine, plus vers Saint-Léonard-de-Noblat, Saint-Denis-des-Murs. Donc on cherche des nouvelles forêts à acheter. On a encore un petit peu de trésorerie, donc on cherche des forêts, au moins on va dire 10 hectares d'un seul tenant, pour que ça soit économiquement intéressant aussi. Et puis on gère quelques forêts pour des gens privés aussi, voilà. Des gens qui ont déjà des forêts et qui nous demandent d'appliquer ce type de sylviculture pour eux. Et voilà, mais c'est pas facile en fait de trouver des forêts qui sont intéressantes à des prix corrects et avec un écosystème qui est en bon état. Voilà, parce qu'on n'a pas encore suffisamment la foi pour partir d'une coupe rase tout massacrée et se dire ouais, on va faire un truc génial avec cette forêt massacrée. Donc on achète quand même des forêts belles déjà, un petit peu quoi.
Et j'imagine que même si vous êtes sur un principe de régénérescence naturelle, il y a quand même des travaux forestiers à faire sur ces parcelles. Et est-ce que c'est des choses que vous faites vous-même ou est-ce que vous faites appel à des travailleurs forestiers? Et est-ce que si c'est le cas, est-ce que vous trouvez des travailleurs forestiers qui sont d'accord de bosser de manière différente?
Ouais, alors je vais me permettre de replacer un petit peu, peut-être pour des gens qui savent pas en quoi consiste la gestion forestière. Donc en fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller mesurer un petit peu les arbres, voir quelles sortes d'arbres on a sur la forêt, et puis on va faire un document avec des cartes, avec des prévisions de toutes les coupes qu'on veut faire pendant 20 ans, qui s'appelle un plan de gestion. Et puis on le fait le valider auprès des services de l'État. C'est le Centre Régional de la Propriété Forestière. Suite à ça, nous, on va aller sur les parcelles et on va marquer les arbres. On va choisir quels arbres on va regarder, quels arbres on va couper. Après, on va faire venir des entreprises. Donc moi, je bûcheronne un petit peu de plus en plus, mais c'est vrai qu'on va quand même majoritairement faire intervenir des entreprises de bûcheronnage, des débardeurs, pour réaliser les chantiers. Nous, on fait la maîtrise d'œuvre pour que ça se passe bien. Et puis la commercialisation, on va vendre les troncs d'arbres donc, aux différents acheteurs de bois. Après, c'est vrai que le fait de faire ce qu'on appelle de la futaie irrégulière, donc c'est le fait de garder des petits, des moyens et des gros arbres sur la même parcelle en permanence, ça veut dire que quand on coupe un arbre, il y en a d'autres à côté qui restent, qu'il ne faut pas les blesser et qu'il faut avoir, on va dire, plus qu'une technicité, c'est sûr, mais surtout une sensibilité. C'est-à-dire qu'il faut que la personne sache pourquoi on ne veut pas blesser les autres arbres, pourquoi c'est important de ne pas tasser le sol. On trouve des gens comme ça de plus en plus. Il y a pas mal, on va dire, dans la nouvelle génération de forestiers, il y a pas mal de jeunes qui, effectivement, ne s'imaginent pas forcément faire de la forêt autrement que comme ça, en fait. Donc, on est en train de construire ce réseau-là. Je pense que dans 20 ans, il y aura beaucoup de gens comme ça, heureusement. Et puis, voilà, non, ça va, on s'en sort pas mal. Il y a des avantages et des inconvénients au niveau de cette manière de faire, c'est-à-dire que pour tous les gens qui sont anciennement dans la filière, presque ça va leur faire peur en fait. Ils vont se dire à un moment donné, je vais rien gagner, ou est-ce que je vais savoir faire? Ils vont m'embêter, ils vont jamais être contents, ça va pas être comme je veux, etc.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi une histoire de machines qui sont pas adaptées justement pour passer sans blesser les arbres alentour?
Effectivement, alors les machines, c'est vrai que c'est quelque chose. Dans l'absolu, on se dirait effectivement, on dirait oui, ce serait super si on pouvait faire complètement sans. Dans la réalité, c'est quand même difficile de faire sans. Donc, ce qu'on fait nous, c'est qu'on a une technique qui est notamment très pratiquée en Allemagne. Moi, ma femme vient de Bavière. L'ONF bavaroise pratique ça depuis une trentaine d'années avec grand succès. Ça s'appelle les cloisonnements fixes ou les chemins d'exploitation fixes. C'est-à-dire qu'on va dans la forêt définir des chemins de 3-4 mètres de large, régulièrement disposés, donc tous les 30 mètres. Et puis les bûcherons, nous on préfère travailler avec des bûcherons manuels, éviter la batteuse, vont faire tomber donc les arbres sur ces chemins. Et après coup, le porteur, donc, qui est effectivement la grosse machine qui est très lourde, surtout une fois qu'elle est chargée, va venir dans ces chemins et va prendre les arbres de part et d'autre, mais sans quitter les chemins. Il ne va pas avoir le droit de mettre les roues en dehors de ces chemins. Donc ces chemins sont entre guillemets sacrifiés, mais par contre ils sont fixes et on sait que la machine ne va pas divaguer et aller partout dans la parcelle comme ce qui se pratique habituellement. Donc c'est un peu une manière, on va dire, de couper la poire en deux. Et voilà, parce qu'il ne faut pas se leurrer aujourd'hui. Voilà, même les écoles pour le bûcheronnage, ils ont du mal à trouver des jeunes qui veulent faire ce métier, c'est quand même difficile. Donc, ou le débardage à cheval, nous on trouve ça super, mais sur des bois qui sont, par exemple sur des éclaircies où on enlève tous les arbres les plus petits et les moins beaux ou les moins chers, et ben du coup le prix de l'arbre ne payera pas le débardeur à cheval, ou c'est compliqué. Voilà, ça dépend des chantiers, ça dépend de la distance de la route. Mais du coup, il y a tout un tas de cas de figure où effectivement, on ne peut pas se le permettre. Et donc, du coup, comment faire quand on est obligé de passer par les gros engins? Voilà.
Alors, tu parlais de sylviculture irrégulière par rapport à ce que tu pratiques, donc, qui s'oppose à la sylviculture régulière, qui est celle qu'on voit communément ici sur les routes de la montagne Limousine. Hein, c'est ces arbres toutes du même essence, toutes du même âge, plantés en ligne et qui vont finir en coupe rase pour être replanté comme tu viens de le décrire. Alors vous proposez donc une autre façon de travailler, mais on entend souvent, enfin la filière, les gens de la filière, des professionnels et des gens même souvent de bonne foi disent, mais en fait on peut pas faire autrement. Surtout ici, il y a pas d'alternative finalement, on est obligé. Et les nombre de propriétaires en sont convaincus. Et en fait, vous montrez que c'est pas vrai, qu'il y a d'autres méthodes et qui sont beaucoup moins impactantes pour les écosystèmes.
Oui, tout à fait. Alors, il y a effectivement ce que disait madame, c'était une question de technicité. Il y a peut-être aussi une partie des gens, ils disent qu'ils ne peuvent pas faire autrement parce qu'ils ne savent pas faire autrement. Donc ça, c'est une première chose. Après, c'est une question de court terme et de long terme. C'est-à-dire que quand on est le propriétaire, oui, sur le coup, tout de suite, au moment de la coupe rase, on va gagner plus d'argent. Mais sauf que la terre, le sol, il est très fortement tassé. Quand vous replantez des arbres sur un sol comme ça, il ne faut pas croire que les arbres ils vont pousser à la même vitesse ou de la même manière que la fois d'avant. Hein ? Mais ça, l'exploitant, lui, il n'en a pas grand-chose à faire. Lui, il est parti depuis longtemps, son entreprise, il ne vit pas à la même échelle de temps que celle de la forêt. Donc, non, moi, je dirais aux propriétaires déjà, si vous demandez à votre gestionnaire, que ça soit la coopérative ou n'importe qui, si vous lui dites « moi, je veux de la futaie régulière », mais il est capable de le faire, notamment depuis au moins 20 ans, tous les techniciens forestiers qui sortent des BTS, MEMAC ou autres, ils savent le faire. Si on leur demande de le faire, ils savent le faire, il n'y a pas de souci. Donc je pense que c'est plus une question d'informer les propriétaires que ces choses-là sont possibles, et puis de se dire que sur le long terme, c'est le propriétaire qui est gagnant ou perdant sur ce choix-là, donc il faut bien y réfléchir. Après, il y a aussi un avantage qui est peut-être pas souvent mis en avant, c'est qu'en fait, quand on est en futaie régulière, on revient faire une exploitation tous les 8-10 ans. Voilà. Donc en fait, on a des revenus tous les 8-10 ans. Et en plus, si on travaille comme ce que nous faisons avec la régénération naturelle, on a beaucoup moins d'investissements. Parce qu'on dit souvent la coupe rase est très lucrative, c'est vrai, mais on oublie un petit peu qu'avant, il a fallu payer pour planter, il a fallu payer pour dégager les plants, il a fallu payer pour élaguer les arbres, pour faire des éclaircies qui ramenaient rien. Donc en fait, c'est plutôt un rattrapage de toute une somme d'argent qu'on a investi pendant 45 ans. Alors qu'avec la futaie régulière, effectivement, on a beaucoup moins d'investissements et au final, en termes d'équilibre financier, on s'y retrouve largement.
Et comment se pose la question des débouchés commerciaux, on va dire ? Parce que aussi, ce qui se passe, c'est que l'exploitation qui est faite de la forêt aujourd'hui, la majeure partie du bois qui est sorti, il part pour de la pâte à papier. Et j'imagine que quand on est dans une gestion irrégulière de la forêt, les arbres que vous allez sortir, est-ce que c'est plus du bois d'œuvre ? Qu'est-ce qui devient ce bois-là ? Qui est-ce qui l'achète ? Qui est-ce qui est intéressé par ça ?
De la pâte à papier ou des scieries qui veulent des tout petits bois, oui, bien formatés, ouais. Et surtout pas des beaux gros arbres, comme on en voit en futaie régulière.
Je m'inscris un petit peu en faux quand même, c'est-à-dire qu'en fait sur un même arbre, vous allez avoir les différentes qualités, c'est-à-dire que sur le début du tronc vous allez avoir la meilleure qualité bois d'or, puis quand vous montez dans la hauteur de l'arbre vous allez avoir des diamètres plus petits, des qualités moindres, et effectivement vous allez aller sur des produits comme les palettes industrielles, sur effectivement de la trituration pour faire des panneaux de bois aggloméré, du papier, etc. Donc finalement, je dirais qu'on va produire les mêmes produits. Nous, sur ce qu'on essaye beaucoup de travailler sur le réseau d'acheteurs en direct. C'est-à-dire que si on peut trouver pas mal de personnes, une dizaine de personnes qui chacun, lui le menuisier, lui le personne qui fait, comme celui que j'ai vu aujourd'hui, qui fait des meubles en fuste, et ben si eux, ils vont nous dire « cet arbre, je les veux », au moment de l'exploitation, on va lui mettre de côté ce qu'il veut et on va pouvoir valoriser un petit peu mieux nos bois. Parce qu'il ne faut pas se leurrer quand même, en termes de volume, un menuisier ne va pas vous prendre des dizaines et dizaines de mètres cubes. Voilà. Donc on ne peut pas faire sans non plus les gens de la filière qui font passer des gros volumes, on n'a pas le choix. Après, effectivement, sur le côté standardisation que monsieur disait, je dirais plutôt... Aujourd'hui, il y a une demande, notamment si on parle du Douglas, d'arbres qui font, dans tous les cas, moins de 80 cm de diamètre, puisqu'on a des scies qui s'appellent des machines les unes derrière les autres, qui s'appellent des canters, qui sont très, très rapides, très efficaces, mais qui ne peuvent pas prendre des diamètres de plus de 80 cm. Et donc, du coup, on va, entre guillemets, pousser les propriétaires. On va leur dire, au bout de 45 ans, c'est bon, ils sont mûrs, faut y aller. Parce qu'effectivement, c'est ce que demande l'industrie du bois derrière. Sauf qu'un Douglas à 45 ans, c'est le moment où il est le plus gros, enfin, où il est assez gros. C'est le moment où il a le plus d'épines, le plus de feuilles. C'est là où il fait le plus de photosynthèse. Et en fait, c'est là où il pousse le plus. Et c'est là où il fait des accroissements importants. Donc, avec quand même la réserve qu'il faut faire attention aux maladies. Il y a certaines espèces qui, au-delà d'un certain âge, peuvent perdre en qualité. Donc, il faut faire attention et être technique. Mais en termes d'accroissement et de rendement, entre guillemets, pour le sylviculteur, c'est dommage de couper un arbre à 45 ans à Douglas parce que c'est le moment où, justement, il grossit le plus. Donc, effectivement, il faut essayer de s'informer. Il faut essayer de trouver des interlocuteurs qui sont sincères, qui tiennent un discours un petit peu différent, qui arrivent à se positionner réellement dans l'intérêt du propriétaire. Voilà.
On va rappeler un petit peu justement, alors là, ça fait quand même quelques années qu'on parle beaucoup de la forêt ici, et notamment qu'il y a des critiques autour du mode d'exploitation. Et on entend souvent, ah oui, mais la balle est dans le camp des propriétaires, mais si on n'est pas soi-même propriétaire, justement, un groupement forestier comme Avenir Forêt, c'est la possibilité aussi, finalement, d'agir sur le devenir de la forêt. Alors, à partir de combien, justement, c'est que ça coûte combien une part chez vous, à partir de combien on peut rentrer dans le groupement? Et à un moment, est-ce qu'on peut dire, ah tiens, moi j'aimerais bien participer sur une forêt en particulier, près de chez moi, ou enfin voilà, parce que tu peux nous expliquer comment ça peut se passer?
Ouais, alors, donc, le fait est que le fonctionnement avec les parts sociales, ça fait que vous êtes propriétaire d'un petit peu de toutes les forêts. Voilà, il n'y a pas de lien entre les arbres et les gens. Après, nous, dans notre cas particulier, on a choisi de mettre un minimum d'investissement à 10 000 euros parce qu'on ne voulait pas se retrouver avec des gens qui donnent 500 euros, 1 000 euros et finalement devoir gérer 400 personnes. Pour les assemblées générales, ça devient très compliqué. Voilà. Donc c'est vrai que pour nous, c'est 10 000 euros minimum. Mais moi, j'ai envie de dire à un moment donné, par exemple, j'ai l'impression que sur le plateau de Mille Vaches, il y a une certaine cohésion au niveau d'une partie de la population et qu'on pourrait imaginer tout à fait de monter un groupement forestier sur le plateau avec l'idée d'acheter des forêts, effectivement, de les gérer de manière irrégulière, de montrer qu'on peut faire ça. Peut-être pour des personnes qui ont des bois et qui ne veulent pas passer en coupe rase, qui ne veulent pas, qui savent que si... pourquoi pas ces gens-là, ils pourraient donner ou en tout cas ou échanger leur forêt contre un certain nombre de parts sociales et puis essayer d'avancer comme ça. Et en fait, l'effet, il n'est pas, je parle de l'effet militant, il n'est pas au niveau des surfaces parce qu'il ne faut pas se leurrer. Nous, on a 100 hectares, sur le plateau de Mille Vaches, 100 hectares, c'est, par rapport à l'ensemble de la surface, c'est pas beaucoup. Mais par contre, ça a un effet d'exemplarité, c'est-à-dire que telle forêt, elle est en irrégulière. On en discute, ça se sait, on peut aller les voir, on peut voir qu'on peut faire autrement. Nous, typiquement, on vient d'acheter là une forêt de Douglas hyper classique, monoculture, jamais éclaircie, etc. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une éclaircie et on va essayer de favoriser le feuillu. On peut déjà travailler aussi dans cet esprit-là, c'est-à-dire essayer de mélanger feuillu et résineux. Ça permet d'avoir une meilleure résistance aux attaques sanitaires, aux attaques des maladies et des insectes. Ça permet d'avoir différents produits, différentes essences. Ça permet de mieux résister aux tempêtes, souvent. Et ça a pas mal d'avantages. Donc quand on est sur que du résineux, on peut essayer d'introduire du feuillu. Et puis à l'inversement, si on a que du feuillu, pourquoi pas imaginer d'aller mettre un petit peu de résineux, mais tout ça en mélange. Voilà. Pareil, il y a une technique aussi qui est de bon sens, mais... plutôt que d'aller acheter des plants en pépinière, on peut très bien aller chercher des petits plants de régénération naturelle à droite à gauche, les déterrer avec une bêche, les déplacer, et puis faire comme ça ce qu'on appelle des enrichissements. C'est à la main, ça coûte rien à part le temps qu'on a pris avec une poignée d'amis. Et en plus, ces petits plants qui ont poussé, on sait qu'ils sont adaptés au sol et au climat, puisqu'on les a pris à 50 mètres. Voilà, ce qui est très différent de plants qui ont été élevés en pépinière, dont la provenance, on ne la connaît pas forcément, qui ont été peut-être nourris avec des engrais, etc. Et donc du coup, le choc quand on les plante dans une autre forêt très loin, peut être, la réussite peut être moins importante.